pour prier pour le comité missionnaire. Ils font une œuvre extraordinaire. Et nous savons que nos missionnaires aussi ont besoin, ils sont sur la ligne de front, ils ont besoin justement d'être soutenus dans la prière. Alors, on va prendre quelques instants pour prier pour eux. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Tu nous as dit dans ta parole, la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Et tu nous as demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous te remercions pour ceux qui ont répondu oui à l'appel. Et ce matin, nous voulons être derrière eux, nous voulons être co-ouvriers avec toi et soutenir ces personnes dans la prière. Seigneur, tu les connais. Même avant la fondation du monde, tu les avais choisis. Et ce matin, nous voulons te demander, Seigneur, que tu puisses mettre ta bonne main sur chacune de ces personnes qui ont été mentionnées. Nous te demandons de les soutenir là où est-ce qu'ils sont, de pourvoir à leurs besoins, Seigneur, émotionnels, matériel, spirituel, que tu les protèges contre les ruses attaques du malin, et Seigneur, que tu les encourages dans cette œuvre à laquelle tu les as appelés. Merci aussi pour ceux parmi nous qui les soutiennent. Merci pour Adama et toute son équipe, Seigneur, ces personnes qui nous ont été présentées ce matin, le comité missionnaire de l'Assemblée de Cap de Madeleine. Seigneur, bénis ce groupe dans leur aussi du zèle pour ce ministère et qu'ils puissent aussi être Seigneur, ceux qui nous communiquent toujours les bonnes nouvelles et des nouvelles, Seigneur, qu'importe, mais qui sont comme entre les missionnaires et nous, Seigneur, pour nous encourager aussi à être fidèles à soutenir nos missionnaires dans la prière. Alors, nous voulons remettre tout ça entre tes bonnes mains, demandant ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bon matin à vous tous. Bon dimanche. Merci à Johan et son équipe pour ces beaux chants de louange, tellement bon, puis beau. Je pense qu'à la fin, on a entendu Alléluia, Amen, mais oui, c'était vraiment apprécié. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le livre d'Agé. Et quelqu'un m'a dit ce matin, mais si tu vas vieillir ce matin, je parle d'Agé. Et si vous avez difficulté à trouver le livre, trouvez le dernier livre de l'Ancien Testament qui est Malachie. Vous reculez un livre, vous allez trouver Zacharie, oui, ça c'est la meilleure prononciation. Et après ça, vous reculez et vous allez trouver Agé. Et là, pas compliqué. Alors, on nous raconte l'histoire d'un groupe de chasseurs qui était parti pour la journée à la chasse aux chevreuils. Et ils sont partis deux par deux. Et le soir venu, l'un des chasseurs est retourné au camp, tout seul, mais chancelant sous le poids d'un gros bac. Et surpris de le voir tout seul, les autres lui ont demandé, « Mais hey, c'est où ton copain? Où est Gaston? » « Oh, répondit-il, Gaston a subi une sorte d'infarctus. Il se trouve à quelques kilomètres d'ici dans le trail. Hein? Tu veux dire que tu as laissé Gaston coucher là-bas, tout seul, et tu as ramené le chevreuil ici? » Oh, ce n'était pas une choix facile, répliqua le chasseur. Mais en fin de compte, je me suis dit, personne ne me volera Gaston. Alors, bien-aimés, vous savez, la vie est comme cela. Chaque jour, les choix se présentent à nous. Et la question se pose, lesquels allons-nous prioriser? Quelqu'un a bien dit ceci, il est étonnant de constater jusqu'à quel point nous pouvons focaliser sur les choses de peu d'importance, tout en négligeant les choses les plus importantes de la vie. Ou pour citer les paroles de Leonard Ravenhill, il a dit ceci, « Plusieurs parmi nous sont en train de chasser des souris pendant que les lions sont en train de dévorer le pays. » Mais merci, Dieu, merci notre Dieu pour le livre d'Agé. Hein? Un livre qui a été écrit il y a si longtemps, mais qui encore en 2014 renferme un message d'actualité, message tellement important pour nous aujourd'hui. Alors, on va lire le premier chapitre du livre. On l'appelle un prophète mineur à cause justement de la taille du livre. Il y a seulement deux chapitres. Mais, comme je viens de vous dire, le message d'Agée, c'est d'une importance capitale. Alors, Agée, chapitre 1, on va lire du verset 1 à 15. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en Sémou. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel le fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi part maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'appelais la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la seconde année du roi Darius. Alors ce matin, nous allons faire une survol en guise d'introduction. Je mets la table pour ainsi dire. Et dans les semaines à venir, on va regarder plus attentivement le texte. J'ai intitulé ce message, cette introduction, priorité aux priorités. Les anglophones vont apprécier aussi. Nous avons Brent Hitt avec nous ce matin de Indiana. Alors, put first things first. Et pour faire cela, j'aimerais considérer avec vous cinq questions importantes à poser à propos du livre d'Agée qui va nous bien aider à comprendre ce livre-là. Alors, dans un premier temps, la question que nous allons poser, c'est le qui. Alors, qui est Agée? On sait que son nom signifie « joyeux », mais à part de cela, que savons-nous de lui? La Bible nous dit qu'Agée, c'est un prophète. À sept reprises, vous avez cinq fois dans le livre d'Esdras, dans le livre d'Agée, et deux fois dans le livre d'Esdras, sept fois en tout, on appelle Agée le prophète. Et j'aimerais considérer avec vous alors son ministère, le ministère du prophète, qui est à la fois spécial et important. Alors, premièrement, le prophète parlait au nom de Dieu. Esdras 5, 1 nous dit ceci, « Agir le prophète prophétisèrent au nom de l'Éternel. » Et dans Agir 1, 12, nous lisons ceci, « C'est selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. » Alors, cet homme se présentait devant le peuple et il n'était pas là pour parler de son propre chef. Il venait au nom de l'Éternel, au nom de Dieu. Deuxièmement, le prophète aussi parlait avec l'autorité de Dieu. À 5 reprises, le texte martèle cette phrase, « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Troisièmement, le prophète parlait suite à une révélation de la part de Dieu. Agée 2.1 nous dit ceci, et aussi encore au verset 10, « La parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète. » Et quatrièmement, le prophète, son message, la parole de Dieu, s'adressait aux individus et ou au peuple entier. Et dans le livre d'Agée, vous avez les deux cas, vous avez Agée 1.1 et Agée 2.21, où est-ce que deux individus se sont ciblés. Dieu va parler directement à Zorobabel et aussi à Josué, et ensuite Agée 2, verset 4, Zorobabel, Josué et aussi le reste du peuple. Alors Agée, prophète, l'envoyé de l'Éternel, d'après l'ordre de l'Éternel, avec la parole de l'Éternel, et pour qui? Pour tous. Et ce matin, quand vous quittez cette salle, ne dites pas « c'était un bon message, mais c'est dommage qu'un tel et un tel n'étaient pas ici pour l'entendre. » La parole de Dieu s'adresse à vous tous, à moi aussi, le premier. Alors vous savez, bien aimés, Dieu parle encore aujourd'hui, et par sa parole, la Bible, le Sainte Écriture, 2 Timothée 3,16 nous dit ceci, que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alors, la question que nous devrions tous nous poser ce matin, qu'en est-il de notre culte personnel? Est-ce que nous prenons le temps d'ouvrir notre Bible afin que Dieu puisse nous parler? Très important, parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Deuxièmement aussi, Dieu peut parler par ses serviteurs. Éphésiens 4, 11, 12, pas besoin d'y tourner, mais le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, quand il est monté, le texte nous dit qu'il a donné les dons aux hommes. Ce sont les personnes, les hommes qui a donné à l'Église pour justement l'enseignement. Éphésiens 4, 11 parle des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'édification du corps de Christ. Dieu parle encore pour que le peuple de Dieu puisse être édifié et puisse croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu aussi parle encore aujourd'hui par nos frères et nos sœurs. Hébreux 10, 24, 25 nous dit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et comment? En nous exhortant réciproquement. Et bien entendu, un enseignement qui vient d'en haut de la chair ou bien qui vient d'une exhortation qui vient d'une frère ou d'une sœur, la Bible, la parole de Dieu doit toujours en être la source. Alors, Dieu parle encore aujourd'hui, mais est-ce que nous sommes en train de l'écouter? Avons-nous cette attitude comme le jeune Samuel, quand Dieu a parlé, il a dit, « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Dieu parle encore aujourd'hui. Alors le qui? Maintenant, il y a le quand. Quand? Quel est le contexte du livre d'Agée? Et ici, je vous donnerai rapidement quelques faits historiques. Nous sommes ici dans l'an 520 avant Jésus-Christ. Le lieu, nous sommes en Israël. Les Juifs en captivité sont en Babylone à cause de leur péché grave, leur péché d'idolâtrie et de rébellion. Maintenant, sont de retour de l'exil. Et ce retour s'est fait en trois vagues, en 538 sous Zorobabel et Josué, les personnages clés du livre d'Agée. On est là maintenant. Ils vont revenir aussi plus tard, une deuxième vague qui va revenir sous Esdras en 455. Et finalement, une troisième vague que nous venons de voir, le livre de Néhémie. Il y a une troisième vague en 445 qui vont arriver sous Néhémie. Alors, c'est la période aussi de la domination perse. Darius Ier, Istaspée, qui règne de 522 à 486 avant Jésus-Christ, est le roi de Perse. Israël est annexé, c'est une province de l'Empire perse, mais très important de constater l'Éternel des armées. C'est une des expressions clés du livre d'Agée. Il est toujours, toujours assis sur son trône, il est toujours en contrôle, il est toujours souverain. Et comment est-ce que nous savons cela? Mais c'est lui qui a orchestré ce retour. Esdras nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, qui était le roi à l'époque, en 538, le roi de Perse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va publier une publication de vive voix et par écrit pour autoriser les Juifs de retourner en Juda pour rebâtir la maison d'Éternel. Et même, il commande à ses sujets de leur donner de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, et tout cela pour la maison de Dieu. Et quelle belle illustration de ce beau texte dans Proverbe 21, verset 1. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où, partout où il veut. » Alors, qu'importe parmi les nations qui est sur le trône, nous avons un Dieu qui est encore plus grand, qui est assis sur son trône et qui est en contrôle. Alors, tout cela s'est passé en 538. Nous sommes maintenant en 520, 18 ans plus tard. Et la question qu'on pourrait se poser, qu'avaient-ils fait les Juifs depuis le retour de l'exil? Mais Esdras 3 nous donne la réponse. Dans un premier temps, quand ils sont revenus, dans un élan fervent, ils ont, vers 536, ils avaient rebâti l'autel d'Airain et ils avaient offert des sacrifices à Dieu. Ça, c'est dans Esdras 3, 2. Ils avaient aussi célébré la fête des tabernacles, Esdras 3, 4. Et aussi, ils avaient posé les fondements pour un nouveau temple, pour remplacer celui que Nebuchadnezzar avait saccagé. Mais ce beau départ enthousiasmé avait rencontré de l'opposition. Esdras 4:4 nous dit ceci, « Les gens du pays découragèrent le peuple, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. » Et Esdras 4:24 nous donne la triste conclusion, « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. » Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, comme nous venons de lire, roi de Perse, jusqu'à 520 avant Jésus-Christ, jusqu'au commencement du livre d'Agée. Alors, 16 longues années s'écoulent, pendant lesquelles l'apathie s'installe, le peuple s'habitue à vivre ans. Et comme nous venons de voir dans notre texte, le peuple se donne d'autres priorités. Et ça, c'est le contexte du livre de Néhémie, d'Agée plutôt, contexte qui va éclaircir notre prochaine question, et qui est le pourquoi. Quel but Dieu vise-t-il à travers le livre d'Agée? Et le but, c'est simple et précis, c'est de motiver les Juifs à bâtir le temple, bref, de les motiver à finir ce qu'ils avaient commencé. Et je ne sais pas si quelques-uns de vous pouvez vous identifier avec cette situation. Moi, je sais que pour moi, c'est une problématique. Je suis un de ceux qui sont des bougies d'allumage, mais pour être des grinders, comme on dit en anglais, ceux qui vont persévérer pour amener ça jusqu'à la fin, j'ai bien de difficultés avec ça. Le Seigneur est gracieux. Mais ici, nous avons 16 ans où est-ce que l'œuvre de Dieu veut maintenant motiver le peuple à terminer ce qu'ils avaient commencé. Et on peut se poser la question, pourquoi est-il important de bâtir la maison de Dieu? Je vous donne deux raisons. Israël avait été amené en captivité. Vous savez la raison à cause de leur désobéissance à l'alliance de Dieu. Et ils avaient besoin maintenant de revenir à une pleine obéissance à cette alliance avec Dieu. Et la meilleure façon de faire cela pour démontrer justement qu'ils étaient sincères dans le retour, c'était par l'adoration. Une âme devant Dieu, qui est en adoration devant Dieu, est en train de dire à Dieu, « Moi, je suis attaché à toi, dans l'adoration. » Et comment est-ce qu'ils vont faire cela? Mais pour adorer, ça prend une temple. Alors, d'avoir une temple, c'est une façon justement de les encourager et de les guider dans cette voie d'adoration que le Seigneur cherche de chacun de nous. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le premier des commandements. Et deuxièmement aussi, il y a une autre raison. Dans l'Ancien Testament, dans le contexte de l'Ancien Testament, la gloire d'un temple était un reflet de la gloire du Dieu du temple. Et d'avoir justement le temple éternel qui était là délaissé, juste les fondements, était une honte pour Dieu. Alors, terminer le temple, c'était une façon de glorifier Dieu. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans Agée 1, verset 8, Dieu a dit, allez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Alors, ce sont des raisons pour le Seigneur motive son peuple. Alors, ça c'est le quand, le qui, le quand, le pourquoi et maintenant le quoi. Ou si vous préférez, quel est le contenu du livre d'Agée? Alors, je vais vous donner ce matin juste les grandes lignes de ce livre, parce que je ne veux pas voler le punch des frères qui vont me suivre dans l'enseignement. Mais alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Agée va prononcer quatre messages. C'est un petit livre, mais il y a quatre messages puissants, tous précédés d'une date. Et son ministère dure à peu près un peu moins de quatre mois. Si vous suivez le texte biblique, on va vous parler du premier jour du sixième mois jusqu'au 24e jour du neuvième mois pendant la seconde année du règne du roi Darius. En langage moderne, pour nous, là, ce serait du 29 août au 18 décembre de l'an 520 avant Jésus-Christ. Et le contexte, comme j'ai dit, c'est de motiver le peuple à rebâtir le temple. Et là, nous allons trouver quatre messages. Dans un premier temps, Agée adresse une parole de reproche à ce peuple-là. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Son deuxième message, c'est un message d'encouragement. L'Éternel va le dire au peuple, je suis avec vous. Et moi, je reste fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous. Même si vous êtes infidèle, moi je reste fidèle pour les encourager. Il parle aussi d'explication. Ce qu'il m'offre là est souillé, en parlant justement des offrandes que le peuple faisait. Et finalement, il y a un message de consolation. Où est-ce que Dieu va parler directement à Zorobabel, qui est un type de Christ, de Jésus-Christ, et va lui dire, je te garderai, car je t'ai choisi. Et ça, c'est le rôle de celui qui parle aux autres de la part de Dieu. Agé n'est pas un yes man, comme on dit en anglais. Yes man, là, c'est quelqu'un qui n'ose pas trop brasser les affaires. Il veut plaire à tout le monde. Mais le prophète, venant de Dieu, avec le message de Dieu, avec l'autorité de Dieu, il a la responsabilité de dire la vérité, sans craindre les hommes, sans se soucier de sa réputation, mais en même temps, en crevant l'abcès, de le faire avec l'amour. Et un beau texte dans 1 Corinthiens 14, 3 nous dit ceci: celui qui parle aux hommes les édifie, les exhorte, les console. Alors, comme quelqu'un a bien dit, le message doit avoir quelque chose pour l'intellect, pour le crâne, avoir aussi quelque chose pour la conscience. Les gens, ils sont piqués dans la conscience quand Dieu le donne la reproche. Il devrait aussi avoir quelque chose pour le crâne, la consolation. Et tout cela, nous allons trouver dans le ministère d'Agé. Mais ces messages aussi montrent un autre aspect. Ils vont nous montrer par ces quatre messages des vraies priorités, car ils vont nous montrer quelles sont les priorités de Dieu à travers ces messages. Alors, le premier message, vous avez une parole de reproche. Et pourquoi? Parce que pour Dieu, sa gloire est prioritaire. Le peuple s'affairait pour leur propre maison. La maison de l'Éternel était délaissée. Dieu intervient. Pourquoi? Parce que Dieu priorise sa gloire. Nous avons aussi un message d'encouragement. Pourquoi? Parce que pour Dieu, son royaume est prioritaire. Daniel 7, 27 nous dit ceci: son règne est un règne éternel. Quand le Seigneur Jésus-Christ a démontré à ses disciples le Notre Père, qu'est-ce qu'il a dit? Que ton règne vienne. Ce sont les priorités de Dieu. Message numéro 3, nous avons une parole d'explication. Pourquoi? C'est ce que le peuple m'offre là est souillé. Pourquoi? Parce que pour Dieu, sa sainteté est prioritaire. On ne peut pas servir Dieu avec les mains sales, avec du péché dans nos vies. Et Dieu met aussi, priorise ces choses, et c'est pourquoi il en parle. Trois fois dans Ésaïe chapitre 6, 3, nous lisons ceci: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et quatrièmement, il y a une parole de consolation, parce que pour Dieu, son Fils aussi est prioritaire. Dieu va, et Bourbon nous dit ceci, que Dieu a dit au Fils: assieds-toi à ma droite. Ça, c'est la place d'honneur et la place de gloire. Et ce matin, il nous reste une conclusion, une dernière question. C'est le comment. Comment donner priorité aux priorités? Mais vous ne pouvez pas vous tromper si vous alignez avec les priorités que nous venons de voir. Vous savez, nous avons un beau texte dans Matthieu 6, 33 qui résume le livre d'Agé. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est le résumé d'Agé. Des priorités aux priorités. Et dans le pratico-pratique, dans un premier temps, on a vu que la gloire de Dieu est prioritaire. Il intervient pour que le peuple de Dieu rebâtisse son temple parce que Dieu se soucie de sa gloire. Alors, dans toutes les sphères de notre vie, à la maison, au travail, dans l'église, est-ce que nous cherchons à glorifier Dieu? Dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos décisions, est-ce que nous avons cela en tête? Cela va-t-il glorifier Dieu? Ça, c'est une façon pratique de comment mettre en pratique justement l'enseignement du livre d'Agé. Deuxièmement, on a vu aussi que Dieu priorise sa sainteté. Ce que ce peuple m'offre-là, il a dit, est souillé. Il fait une explication, il intervient pour rectifier la situation. Alors, si nous voulons donner priorité aux priorités, mais pour Dieu, sa sainteté est prioritaire. Il va dire au peuple dans 1 Pierre 1,15: soyez saints dans toute votre conduite. Alors, est-ce que nous priorisons, est-ce que nous cherchons la sanctification? d'être saint comme Dieu est saint. Et une façon très simple de le faire, on s'éloigne du péché. On sait, la parole de Dieu est claire, il nous montre des choses qui ne sont pas justes et bonnes et correctes pour le chrétien. On s'éloigne du péché. Est-ce que nous nous repentons du péché? Il n'y a personne qui est parfaite. On n'est pas capable de vivre la vie de perfection que Dieu demande. Mais quand nous tombons, est-ce que nous nous repentons sincèrement devant Dieu? Ça, c'est une façon de prioriser la sanctification. Et est-ce que aussi nous confessons régulièrement nos péchés? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà comment est-ce qu'on priorise justement la sanctification. Et finalement, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu doit aussi commencer par une relation intime et personnelle avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. On ne peut pas mettre les autres choses en pratique si on ne commence pas par ce qui est prioritaire pour Dieu, son Fils. Ésaïe 55, 6 nous dit ceci, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il est prêt. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez fait cela? Parce que, comme je viens de dire, on ne peut pas chercher la gloire de Dieu ni la sainteté de Dieu si nous ne connaissons pas le Fils de Dieu. Jésus lui-même a dit ceci, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je vais terminer justement avec un appel. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, mais je plaide avec vous ce matin de faire le connaître, comme on chante, la priorité des priorités. Ça commence là. Pourquoi? Parce que toute notre éternité en dépend. Comment est-ce qu'on fait cela? La Bible nous donne des étapes. Première étape, c'est qu'il faut reconnaître que devant Dieu, nous sommes des pécheurs. Nous sommes incapables de vivre la vie de perfection que Dieu exige, que la loi de Dieu exige de chacun de nous. On est incapables. La Bible nous dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième étape, c'est de reconnaître aussi que nos péchés ont des conséquences. Dieu est un Dieu qui est trois fois saint. Nos péchés offensent Dieu. Il y a une conséquence au bout de cela. Le salaire, la Bible dit, du péché, c'est la mort. Et pourquoi? Parce que Dieu est saint, il est juste, et sa loi est inflexible en ce qui concerne le péché. La loi exige une vie de perfection, et quand on n'est pas capable de le faire, la loi aussi condamne l'injustice. Mais il y a une bonne nouvelle, ce sont des mauvaises nouvelles, mais l'Évangile c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est de reconnaître que Dieu est un Dieu d'amour. Et dans son amour pour vous et pour moi, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a vécu la vie de perfection que vous et moi, nous ne pouvions pas vivre. Il a pu dire aux pharisiens, ceux qui étaient là, « Qui de vous me convaincra du péché? » Alors, cette vie de perfection que la loi de Dieu exige, il a vécu. Et de plus, il est allé mourir aussi, il a subi la mort que la loi parfaite et juste de Dieu exige. Les conséquences du péché, Jésus-Christ est mort à notre place. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce matin, si par un acte sincère de foi, vous vous repentez de vos péchés, c'est ce que les apôtres ont prêché. Repentez-vous, Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et ceux et celles qui se repentent de leurs péchés, qui croyaient à la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort à notre place. Et si vous l'invitez de venir dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, Dieu est tellement gracieux. Il va nous pardonner, il va nous purifier, il fera aussi de vous en enfant. Un beau texte dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, la parole de Dieu, la parole vivante, la parole incarnée, a donné, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne peut pas avoir quelque chose de plus merveilleux que cela, de se savoir enfant de Dieu, d'avoir Dieu pour Père, d'avoir justement notre éternité déterminée, scellée. On sait qu'on va passer l'éternité avec Dieu et d'avoir aussi sa grâce pour chaque jour, pour nous accompagner jour après jour. Et tout cela grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la priorité des priorités, de connaître le Christ. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous le cherchez? On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour être ce Dieu qui est bon et juste, un Dieu d'amour. Merci pour ce beau livre d'Agée. Seigneur, que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air, mais que tu puisses aller dans le secret. Tu nous connais, tu nous as formés, tu nous as même attissés dans le sein de notre mère. Et nous te demandons, Seigneur, de nous parler. Que cette parole que nous avons lue ce matin soit percutante, qu'elle puisse redresser les choses qui ont besoin d'être redressées, que tu puisses aussi nous édifier, que tu puisses aussi nous consoler. Bâtis ton Église, Seigneur, comme tu as promis de le faire. Et si parmi nous il y a quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas comme le Sauveur et le Seigneur, Seigneur, que tu leur donnes cette révélation tellement nécessaire afin qu'ils puissent reconnaître le pécheur, mais qu'ils puissent aussi croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Sépare-nous avec ta bénédiction et Seigneur, que ta bonne main repose sur chacun de nous. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.